Europe 1.
Nous accueillons maintenant Hélène sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Hélène et quel âge avez-vous?
Alors j'ai 40 ans et j'appelle de Bretagne.
De Bretagne, d'accord. De quoi voulez-vous me parler Hélène?
Eh bien, je voudrais vous apporter mon témoignage sur les violences psychologiques.
Oui.
Et également vous dire, comment vous expliquer ça? Surtout de témoigner pour l'après, de témoigner pour donner du courage et surtout de rester positive. Je parle en tant que femme, mais je suis sûre aussi qu'il y a des hommes concernés, de dire que c'est possible d'avoir une vie après, c'est possible de s'en sortir et c'est surtout possible de recommencer.
Oui.
Alors, je dis bien de recommencer, mais de repartir à zéro dans sa vie et plusieurs fois.
De rebondir, donc.
De rebondir.
Mmh. Que vous est-il arrivé, Hélène?
Voilà. Alors, moi, j'ai reproduit un schéma familial inconsciemment, bien sûr, avec deux hommes que j'ai aimés et avec qui j'ai eu un enfant.
Oui.
Voilà, donc le premier, je suis restée 6 ans, j'étais jeune. J'étais une jeune maman et je suis restée 6 ans avec le papa. La personne qui m'a aidée à mettre des mots sur ce que je vivais est une amie, qui est restée une amie encore aujourd'hui. Et puis, au gré des rencontres, j'ai pu mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Donc maintenant, on le dit à toutes les sauces, mais il y avait bien de la manipulation. Je me suis beaucoup documentée, j'ai fait un travail sur moi et je m'en suis sortie. J'ai continué ma vie, j'ai eu des rencontres avec d'autres hommes. Et puis, il y a 4 ans de ça, j'ai rencontré quelqu'un comme beaucoup de femmes, je suis tombée amoureuse.
Oui.
Et je suis tombée enceinte très rapidement. Et à partir de ce moment-là, en plein Covid, il y a eu beaucoup de changements et de décisions à prendre importantes. Donc à l'époque, on était géographiquement à distance. Ça faisait à peu près 3 mois qu'on était ensemble.
Oui.
Et puis, j'ai décidé de garder le bébé parce que pour moi, c'était simplement une évidence. Pour mon conjoint, ça n'a pas été facile. Je pensais qu'au début, on était d'accord sur le fait de ne pas se protéger, voulait dire être responsable. Être responsable pour le papa, c'était avorter.
Ah oui, d'accord, carrément, d'accord, ok.
Oui, donc c'est là où, en fait, je commençais déjà à avoir des doutes sur le comportement, mais je n'arrivais pas à mettre de mots. Pourquoi? Parce que j'avais déjà vécu de la manipulation et je pensais à l'époque qu'il n'y avait qu'une façon de se comporter, une façon de manipuler. Et bien sûr, j'ai appris bien après qu'il y a différentes violences psychologiques.
Mmh. Donc, en fait, ces violences psychologiques se sont matérialisées sous quelle forme avec cet homme?
Alors, tout au début de la relation, alors j'ai pas le terme parce que je sais qu'il y a un terme bien approprié, mais on est sur du chaud-froid. Des mots, en fait, les mots n'allaient pas avec ses actes, c'est-à-dire que dans les mots, c'était quelqu'un de sérieux. Dans les actes, je trouvais que c'était tout le contraire. Quelqu'un qui voulait une relation sérieuse. Et puis finalement, je sentais que c'était pas très engagé au tout début de la relation. Et puis, quand je suis tombée enceinte, c'est vrai que j'ai eu un doute. J'ai eu peur quand je l'ai annoncé. Donc, sans doute par intuition. Et sa réponse a été sans appel en disant « on est bien d'accord, c'est trop tôt, il faut que tu avortes ».
D'accord.
Ce à quoi j'ai répondu, on est bien d'accord, c'est trop tôt. 3 mois de relation, c'est trop tôt. Mais pour moi, c'était une évidence de garder cet enfant. C'était, en tout cas, de mon point de vue, c'était un bébé qui a été conçu dans l'amour, et encore de mon point de vue, et un cadeau du ciel. Parce que pour moi, je considérais que c'était la chance d'avoir un deuxième enfant.
Oui.
En tout cas, ça n'allait pas avec mes croyances. Je suis une femme qui est aussi pour l'avortement dans certaines circonstances,
oui,
parce que j'estime qu'on a toute une histoire.
Bien sûr, bien sûr.
Et que je ne juge pas. Mais moi, j'avais une vie stable. Enfin, voilà.
Vous étiez prête à accueillir ce deuxième enfant.
Oui, et puis il s'est posé la question de vivre ensemble. Et comme la distance géographique était présente, c'était qui vient vivre chez qui.
Oui, oui. Et donc ça, c'est vous qui deviez venir.
Ben, en fait, la manipulation avait déjà commencé et je ne l'avais pas vue. Je ne l'avais pas vue venir. Donc à l'époque, moi j'étais en location, lui avait fait un achat de maison et je m'étais dit... Moi, j'ai déjà réalisé un de mes rêves, c'est d'être à mon compte ou d'avoir un cabinet.
Oui.
Voilà, c'était... Pour moi, ça me semblait...
Évident.
Non, oui, une évidence que chacun dans un couple doit faire des concessions et c'était prendre un grand risque de partir.
Il y a une certaine logique une certaine évidence quand même. Comme vous dites, vous étiez à votre compte, vous veniez d'ouvrir votre cabinet... Il y avait quand même pas mal de paramètres qui faisaient pencher la balance pour que ça soit lui qui vienne quand même, non ?
Pour quelque chose. Eh bien non, pas du tout. Pour quelque chose de stable, eh bien j'ai fait l'inverse. Figurez-vous que je suis partie.
D'accord. Pourquoi ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que j'adorais la Bretagne. Je suis tombée amoureuse de la Bretagne depuis très longtemps. Mmh. Et puis... je considérais aussi que, comme lui, c'était son rêve d'avoir obtenu sa propriété, sa maison, je me suis dit que ça allait devenir une maison familiale et que le cabinet, on pouvait lui mettre un cabinet, ça peut se monter n'importe où en France. Donc, j'étais prête à...
C'était un cabinet de quoi, en fait ?
Ah, je suis thérapeute dans le bien-être.
D'accord.
Voilà. Et ça faisait à peu près 10 ans que j'étais à mon compte. Je sais par définition qu'une clientèle, on peut la faire n'importe où. Je suis partie. Je suis partie en plein Covid, enceinte. Arrivée là-bas, ça a été le début de l'enfer. J'ai mis 3 ans pour pouvoir repartir.
Alors, cet enfer, il ressemblait à quoi, en fait ?
Eh bien, au début, je me suis aperçue des mensonges à répétition. Je me suis aperçue que les mots n'allaient pas avec ses actes. C'était parfois à l'opposé. Je me suis aperçue qu'il y avait aussi une ex-relation qui était très ambiguë, de mon point de vue.
Oui.
Un comportement qui n'était pas sain. Quelqu'un qui se dit engagé à recevoir sa femme avec un enfant et qui sort très régulièrement en laissant sa femme enceinte. J'avais une petite fille à l'époque aussi, une précédente union. Moi, je ne connaissais personne. J'ai découvert les addictions, j'ai découvert... La violence psychologique a commencé en tant que femme en étant rejetée. Sur un plan sexuel.
Très, très rapidement, ça, en fait, assez rapidement.
Ah oui, très, très rapidement. En fait, avec le recul, mais vraiment avec beaucoup de recul, je me dis qu'à chaque fois que ça n'allait pas dans son sens ou que je disais quelque chose qui ne devait pas lui plaire et que je ne m'en rendais pas compte, j'avais droit à des représailles, mais très subtiles et vicieuses, qui n'avaient rien à voir parfois et qui étaient vraiment... peut-être des mois à la suite.
Mmh.
Donc le rêve s'est transformé en cauchemar, dans le sens où moi j'y allais avec, des objectifs de femme, une famille, un cabinet. Voilà, je voyais vraiment mon projet de famille aboutir. Et ça a été la dégringolade mois après mois. Je pensais que j'étais avec un homme attentionné, présent et avenant. Ça a été tout l'inverse dans l'intimité. Et c'est là où je me suis aperçue que dans la manipulation, dans la violence psychologique, il y a différentes façons et différents degrés. Moi, j'avais affaire à quelqu'un de... plutôt dans une manipulation séductrice. Donc, c'était très doux. Il y avait, c'est quelqu'un qui n'a jamais porté la voix, qui n'a jamais été violent physiquement. Mais c'était dit d'une façon... comment est-ce que je pourrais vous donner un exemple ? Je n'ai pas d'exemple en tête, mais c'était vraiment... dans la séduction. Donc, on ne le voit pas venir si on n'est pas, entre guillemets, entraîné. Mmh. Parce que on n'a pas le même, je dirais presque qu'on n'a pas la même pensée, ni même, le même cerveau. Et de penser que la personne qu'on aime peut vous détruire et vous faire du mal, c'est quelque chose de très difficile à accepter.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc voilà, j'ai vraiment mis du temps parce que au début j'ai mis ça sur le compte d'un problème avec l'alcool, puis après j'ai mis ça sur le compte de plein de choses, d'avoir peur, d'avoir un enfant, voilà. Et puis je me suis aperçue que le comportement envers l'enfant était pas non plus très sain.
D'accord.
Donc, j'ai commencé à ne plus avoir mon rôle de femme. Et puis, quand le bébé est arrivé, je ne l'ai pas vu tout de suite non plus. Moi, je me suis dit que c'était un bon père, un bon papa qui s'en occupait beaucoup, contrairement à ce que j'avais vécu avec ma précédente union. Et en fait, il est devenu un père possessif.
D'accord.
Et je n'étais plus que la représentation à l'extérieur de la figure maternelle. Je n'existais plus. Et le cabinet, bien sûr, ne s'est jamais monté.
Pourquoi ?
En fait, c'était toujours après.
Il faisait tout passer après.
Parce que c'était... ça, je ne t'ai jamais dit ça. Ça viendra après. Il faut du temps.
Le cabinet, vous deviez toujours, le monter à la maison même ou,
Oui, à côté.
À côté. D'accord.
Sur le même lieu, mais c'était un projet. Voilà. Mm-hmm. Et puis, je me suis aperçue que peut-être qu'un jour, j'ai dû dire une phrase qui n'a pas plu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, perdre mon emploi et puis ne plus rien avoir, ça faisait sans doute partie de ses plans. Parce que la première chose qu'il a fait quand j'ai emménagé, il a dit, on a des choses en commun, ça serait bien qu'on les donne à une association, d'accord. Et donc, j'ai énuméré certaines affaires, et en fait, il a donné des affaires qui n'étaient pas du tout dans la liste que j'avais énumérée. D'accord. Et là, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que tu fais ?
Il n'en faisait qu'à sa tête,
pour ne pas que je puisse.
En fait.
Non, il me dépossédait de mes biens pour ne pas que je puisse repartir.
Ah oui, d'accord, carrément. Oula, oui.
Mais je ne l'ai pas vu, en fait. Je n'ai pas, il y a plein de choses que je n'ai pas voulu voir. Hein. Quand on est amoureuse, on reste souvent dans le déni. Mm-hmm. Parce que la vérité est difficile. Hein. On se retrouve, enfin, moi en tout cas, je me suis retrouvée du jour au lendemain. J'étais une femme très active, une femme indépendante et autonome. Et je me suis retrouvée dépendante, sans travail, sans argent, dans une ville où je ne connaissais personne,
oui.
Avec en plus des difficultés financières, parce que je prends l'exemple d'une voiture qui tombe en panne. Moi, dans un couple, je pars du principe où on se soutient. Et là, c'est « mais je ne peux pas t'aider ». Voilà, donc, mis bout à bout, j'ai réalisé que ça ne collait pas du tout avec qui il était. Et l'image qu'il donnait. Parce que bien sûr, c'est une image, c'est quelqu'un qui est très bien inséré dans la société, qui a un job qui est cadre supérieur, qui a même un doctorat. Voilà, c'est quelqu'un de très intelligent, très gentil.
Très gentil, qui en société brille, donc.
Oui, quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui va toujours vous aider, quelqu'un qui va toujours ouvrir sa porte à tout le monde, quelqu'un qui... et c'est pour ça, et très doux dans la voix, donc c'est pour ça que même... En fait, j'ai eu du mal à voir son vrai visage.
Et lorsque vous dites que c'est une amie qui vous a aiguillé, comment cela s'est-il passé ?
Eh bien, là-bas, moi, quand j'ai tout quitté, j'étais toute seule, mais j'ai continué à garder contact avec mes amis. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée.
D'accord.
J'avais déjà des doutes parce que j'avais déjà vécu une relation toxique. Je voyais bien qu'il y avait des similitudes, mais je ne comprenais pas tout. Donc, je suis allée voir une première fois une psychologue pour pouvoir en parler. Et ça n'a rien donné. J'ai commencé après, j'ai eu des difficultés pendant la grossesse, j'ai eu des difficultés après avoir accouché. Et puis, voilà, mon conjoint disait à l'époque, mais tu fais une dépression postpartum.
Oui.
Non, je réalise juste que j'ai été piégée et que j'ai tout perdu. Et comment je vais faire pour pouvoir partir?
Ouais. Vous
tout
extirpez
en
tout
continuant...
ça, quoi, en fait.
Ben, je réalisais tout ça, je réalisais les erreurs que j'avais pu commettre à ce moment-là. Et en me disant, mais moi qui recherche une vie saine et équilibrée, c'est tout le contraire. C'est totalement tout le contraire. Donc, la mise en danger de l'enfant par rapport à l'alcool. Voilà. Mais c'était quelqu'un qui n'avait pas de problème avec l'alcool. Voilà. Donc, j'ai mis des mots. Au début, j'ai cru qu'il était juste malade, comme toute personne. La dépendance à l'alcool est quelque chose qui est difficile.
C'est très difficile.
Et qui est très difficile. J'avais toujours cet espoir de me dire c'est une maladie, on va l'affronter ensemble. Voilà. Et en fait, il n'avait absolument pas envie de changer sa vie. Il fallait juste que je m'adapte à la sienne.
Vous avez donc fini par partir, Hélène ?
Alors, j'ai eu un choc, en fait, un dernier déclic où il a continué à me mentir droit dans les yeux. Parce que entre-temps, je cherchais des preuves constamment de ses mensonges, de ses infidélités, de ses tromperies. Il me fallait des preuves pour que je puisse me dire « tu n'es pas folle ». Et j'ai trouvé un jour où j'ai eu un déclic en venant de vacances où il a continué à me mentir et je pense que ça a été la fois de trop droit dans les yeux par rapport à l'alcool et de la mise en danger de notre enfant également en conduite en état d'ivresse bien sûr, mais avec ses amis c'était quelque chose de normal. J'étais celle qui ne buvait pas, j'étais celle qui...
Vous étiez l'emmerdeuse en fait.
Ah oui, clairement, j'étais celle qu'on n'aimait pas.
Oui.
Mais ça à la limite... J'ai un fort caractère, donc qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, j'en ai rien à faire. Je connais mes valeurs et ce qui est extrêmement positif, et c'est là où je veux apporter mon témoignage, c'est que ces expériences de vie m'ont appris à m'aimer totalement et à me respecter. Et à me dire que même si je ne suis pas crue, même si je ne suis pas entendue, je sais ce que j'ai vécu. Donc, ça a été un cheminement personnel douloureux, mais salvateur dans le sens où je pense qu'on peut toujours s'en sortir. Je pense qu'on a toujours le choix, même si le choix est extrêmement difficile. La meilleure des choses à faire, c'est de toute façon de se protéger, de protéger les enfants.
Toute la difficulté réside dans le fait de prendre la décision, hein, de toute façon, d'avoir le courage de prendre la décision.
Alors, la difficulté, c'est de se dire déjà qu'on n'a plus rien, qu'on n'a plus de toit, qu'on n'a plus d'argent, qu'on n'a plus de travail. Et c'est de commencer par quoi? Et qu'on n'a plus l'énergie, parce qu'en fait, il faut savoir aussi qu'on est totalement sous emprise.
Oui.
Donc, on n'a plus d'énergie ni pour penser, ni pour avoir l'énergie physique aussi de pouvoir partir.
Cet homme, j'ai l'impression qu'il ne vous aimait plus.
Alors, je me suis toujours posé la question s'il m'a véritablement aimé. C'est différent.
D'accord.
Voilà. Après, avec du temps et de la compréhension, je pense que cet homme était, est toujours d'ailleurs, en réelle souffrance, d'une souffrance complètement abyssale qui n'a pas été travaillée. Et j'ai été le bouc émissaire de cette souffrance. C'est plus facile de projeter sur l'autre ce qu'on ne veut pas voir que plutôt de travailler sur soi.
Ça fait combien de temps que vous l'avez quitté là maintenant?
Ça fait un an et demi.
Un mois et demi?
En fait, un an et demi.
Un an et demi, d'accord.
En fait, je savais que pour pouvoir partir, il fallait trouver un travail. Donc j'ai commencé à trouver un travail. Ensuite, j'ai commencé à reprendre des forces. Et puis, j'ai essayé de partir plusieurs fois. Et à un moment donné, j'ai trouvé un logement par le biais d'une connaissance là-bas, pas très loin de d'où on vivait. Et puis, je savais qu'en partant, j'allais me dire, je vais voir son vrai visage. Donc, il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare à la suite parce que je veux pouvoir protéger mon enfant. Et protéger mon enfance et avoir la garde. Donc, j'ai tout mis en place petit à petit et j'ai eu une dernière preuve de toutes ces addictions et de tous ces mensonges. Et puis, j'ai demandé la séparation avec la procédure pour pouvoir rentrer dans ma région d'origine.
Et vous êtes rentrée?
Je suis rentrée grâce à mes amis. Je suis rentrée grâce au soutien plutôt féminin. Je suis rentrée grâce à toutes ces femmes qui ont continué de croire en moi et de m'épauler. J'ai eu aussi des anciennes clientes qui m'ont ouvert leurs portes.
Oui.
Donc je me suis dit que l'élan féminin était toujours là et que. Et voilà, donc elle pensait que je vivais un rêve en Bretagne et en fait je vivais un véritable enfer. Donc ce que je tiens à dire aussi, c'est ce qui demande peut-être le plus de courage, c'est de commencer à demander de l'aide.
Oui, il faut être capable de demander de l'aide. Oui.
Mais il n'y a pas de honte à demander de l'aide, au contraire, c'est une forme de courage. Donc j'ai demandé à toutes les personnes que je connaissais à l'époque et j'ai été surprise d'avoir des anciennes clientes qui étaient présentes pour moi.
Oui.
Voilà, on m'a aidé financièrement parce que j'ai retrouvé un logement, j'ai mis du temps, j'ai mis 9 mois sans relâche à essayer de trouver un logement avec tout ce qui se passe en France pour les difficultés de logement. Je n'étais pas prioritaire à l'époque pour les logements sociaux. Mais j'ai fini par réussir à trouver un petit logement sain pour mes enfants. Et je suis partie en mettant en place la procédure de séparation par rapport à l'enfant.
D'accord.
Et j'ai été bien guidée, bien conseillée et je m'attendais au pire. Et bien sûr, voilà. Le papa a continué de mentir, le papa a continué de m'enfoncer, de demander une expertise psychiatrique parce que j'étais folle. Et ça, ce sont des mots qui reviennent souvent quand on est face à de la violence psychologique.
En tout cas, vous en êtes sortie là ou vous êtes toujours en procédure avec cet homme?
Non, alors j'ai demandé la procédure en urgence pour pouvoir mettre mon enfant à l'école et j'ai eu la garde.
D'accord.
Donc maintenant c'est établi et voilà, il y a quelque chose de plus établi. La vie reprend son cours. J'ai mis du temps, mais j'ai ouvert mon nouveau cabinet également.
Oui.
J'ai mes anciennes clientes qui sont toujours présentes. Donc, je les remercie d'avoir été fidèles. Et je me reconstruis petit à petit.
Bon,
donc, je continue à travailler sur moi. Mais pour dire que parfois, ça peut prendre vraiment du temps, mais qu'on y arrive toujours.
Très bien, bien, merci beaucoup pour votre témoignage, Hélène. C'est vrai qu'on peut rebondir, on peut repartir à zéro. Comme vous l'avez souligné, c'est très important, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce qu'on est souvent surpris. Il y a dans cette démarche de demander de l'aide souvent des surprises parce que les gens souvent peuvent être gênés par votre situation, ne pas faire le premier pas. Alors que si vous faites le premier pas, comme Hélène nous l'a expliqué là, eh bien, on débloque une situation. Et puis, il y a beaucoup plus de gens, et je vous le dis souvent sur cette libre antenne, beaucoup plus de gens que vous ne pensez qui sont bons, qui sont dans l'empathie et qui sont prêts à aider leur prochain. Donc voilà, Hélène en est l'exemple brillant. Merci beaucoup Hélène pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, force, alors courage à vous.
Merci Olivier.
Bonne continuation, au revoir.
Au revoir.